Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une banque au profil plutôt inhabituel, la banque de Lubac, qui est située en Ardèche, est citée dans le Kazakh Gate, dans les Dubai Papers, et elle fait aussi l'objet d'une enquête pour trafic d'influence. Bonjour Abdelhak El Idrissi.
Bonjour.
Vous allez donc nous raconter comment un établissement familial assez petit se retrouve aujourd'hui dans une telle tourmente. Et puis nous recevrons Iban Raïs. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez La Fabrique des élites des rails. C'est un livre qui dévoile l'envers du décor des grandes écoles de commerce françaises où règne encore une culture du sexisme et de l'humiliation.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Ce petit train qui semble sortir tout droit d'un musée des chemins de fer s'appelle le Mastrou, un nom tiré de Lamastre. Lorsque le Mastrou part du Cheylard, c'est tout un événement. Du Cheylard à Lamastre, c'est la vallée de...
Voilà, c'est un extrait d'un reportage tourné en 1966. Ça fait un moment, hein. C'était à l'époque où le petit train du Cheylard fonctionnait encore. Le Cheylard, c'est un village de 3000 habitants qui est niché au creux des montagnes ardéchoises où on n'imaginerait pas trouver une banque citée dans des affaires qui concernent le sommet de l'État. Or, c'est bien de cela qu'on va vous parler aujourd'hui. Cette banque, elle s'appelle De Lubac, Abdelhak El Idrissi. Alors, comme très peu de gens la connaissent, on va peut-être d'abord tout simplement la présenter en quelques mots.
Alors, la banque de Lubac, c'est en fait l'une des dernières petites banques familiales indépendantes. Elle a été créée en Ardèche, donc au début du XXe siècle, par un Ardéchois d'ailleurs, un Maurice de Lubac, d'où le nom. C'est ce que m'a raconté Joël Alexis Bialkiewicz, l'un des gérants actuels de la banque.
Maurice de Lubac, après avoir fait une très belle guerre de 14, il a été embauché dans une banque. Au bout de quelques années, son patron a voulu fermer son agence. Comme c'était pas quelqu'un qui était du genre à se laisser abattre, il s'est dit très bien, je vais créer ma banque. Donc il a fait une start-up bancaire en 1924 et c'était vraiment la banque du village. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous imaginez une agence de la Société Générale dans une petite ville de montagne. Sauf que, au lieu d'être une agence de la Société Générale, c'est une banque indépendante.
Oui, cette banque indépendante, ensuite, en 1986, Abdelhak, elle s'est développée.
Oui, à partir de 1986, le petit-fils de Maurice de Lubac s'est associé avec un banquier parisien, Serge Bialkiewicz. L'entreprise installe alors des bureaux à Paris, mais elle ne quitte pas pour autant son implantation ardéchoise, comme le précise encore Joël Alexis Bialkiewicz.
On a toujours souhaité conserver les racines régionales de la banque. Et on a donc là-bas un peu moins de 50% de notre personnel quand même. On a un bâtiment, on a même deux bâtiments. On a l'agence historique qu'on a donc conservée, où se trouve le siège social. Mais on a aussi dans une zone industrielle juste à côté, la quasi-totalité de nos back-offices.
Nos back-offices, c'est-à-dire ?
C'est tout ce qui concerne la gestion administrative, les opérations bancaires et comptables notamment.
D'accord, donc cette petite banque s'est finalement installée à Paris tout en conservant son siège en Ardèche. Mais alors, où est le problème ?
Eh bien, le problème, c'est que ces dernières années, la banque s'est retrouvée citée dans plusieurs affaires judiciaires, dont un potentiel scandale d'État sur lequel la justice enquête depuis 2012. Un scandale qu'on appelle le Kazakh Gate.
Alors, on va rappeler ce que c'est.
Eh bien, c'est le nom donné à une affaire de corruption internationale et de blanchiment qui s'est déroulée en 2010 et 2011. Écoutez ce qu'en dit le journaliste de Mediapart, Yann Philippin, qui couvre cette histoire depuis son origine.
Il y a deux volets dans cette affaire de corruption présumée. Le premier, c'est ce qu'on appelle le volet belge, qui est que le dictateur kazakh de l'époque aurait demandé au président français Nicolas Sarkozy de sauver l'un de ses très proches, un oligarque qui était poursuivi dans une affaire financière en Belgique. Et Nursultan Nazarbayev aurait dit à Nicolas Sarkozy, écoute, si tu veux qu'on t'achète des matériels, dont ces hélicoptères, il faut que tu sauves mon ami. Et le second aspect, c'est les soupçons qui porteraient justement sur des commissions versées pour que Airbus obtienne cette vente des 45 hélicoptères.
Oui, j'entends tout ça, Abdelhak, c'est intéressant d'entendre ce rappel, mais quel rapport avec la banque de Lubac ?
Eh bien, le nom de la petite banque ardéchoise se retrouve cité à de nombreuses reprises dans ce dossier judiciaire. Écoutez encore Yann Philippin, il nous raconte comment la banque de Lubac s'est justement retrouvée mêlée à cette affaire.
Il fallait sauver cet oligarque kazakh. Et pour ça, l'Élysée a trouvé une avocate niçoise. Et donc, cet oligarque a versé la bagatelle de 7 millions d'euros d'honoraires, voilà, dont la justice soupçonne aujourd'hui qu'une partie aurait pu être reversée sous forme de commission. Et il se trouve que cet oligarque, il a ouvert un compte à la banque de Lubac. Donc, si vous voulez, une partie de ces 7 millions suspects a transité par un compte ouvert à la banque de Lubac.
Mais et ça prouve quoi, Abdellah, qu'ils ont ouvert un compte là, comme ils auraient pu le faire ailleurs, non ?
Oui, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la banque de Lubac apparaît dans cette affaire. Deux personnes mises en examen dans le Kazakhgate ont été nommées au conseil de surveillance de la banque en 2010 et en 2011.
Et c'est qui ces deux personnes ?
Alors, il y a d'abord Emery de Montesquieu, qui était à l'époque sénateur UDI. C'est l'ancien représentant spécial de Nicolas Sarkozy en Asie centrale. Et puis, il y a Jean-François Étienne Desrosés. Lui, il était chargé de mission à l'Élysée. Officiellement, ils s'occupaient des questions équestres, donc rien à voir avec la finance.
D'accord, donc eux, ils ont un rapport avec le Kazakhgate et la banque de Lubac. Maintenant, la banque est confrontée à une autre affaire.
Oui, en 2013, puis en 2014, un de ses actionnaires, la société Interhold, va déposer plainte pour escroquerie et abus de confiance.
Mais pour quelle raison, précisément ?
Eh bien, en résumé, cet actionnaire conteste la manière dont les gérants de la banque ont mis la main sur la majorité des parts de leur entreprise. Je vous passe les détails, mais plus globalement, le président de la société Interhold, Gabor Radeau, se dit mécontent de la façon dont les dirigeants gèrent l'établissement.
Je leur reproche de gérer notre banque depuis de nombreuses années dans une opacité totale et dans leur seul intérêt, au mépris de l'intérêt social. Il est quasiment impossible d'obtenir des informations complètes et détaillées sur l'activité. Ils opposent systématiquement le secret bancaire, même à un associé qui détient 20% du capital, le secret bancaire abondant.
Parce que le secret bancaire permettrait de dissimuler des informations ?
Oui, alors ça, c'est ce que dit le plaignant, mais les dirigeants de la banque, eux, réfutent catégoriquement ces accusations. Maintenant, si je vous en parle, c'est surtout parce que cette affaire, qui peut vous sembler obscure, elle va permettre de mettre au jour d'autres pratiques qui, elles, posent question.
C'est-à-dire ?
Eh bien, à la suite de cette plainte, il y a eu une ouverture d'enquête, des perquisitions ont été menées, et la justice va découvrir des documents qui mettent en évidence l'existence de connexions entre des cadres de la banque de Lubac et le sommet du pouvoir.
Alors là, faut expliquer.
Eh bien, on découvre que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les deux personnages publics dont je vous parlais tout à l'heure...
Oui, Emery de Montesquieu et l'ex-chargé de mission à l'Élysée, Jean-François Étienne Desrosés.
Oui, ces deux personnalités, elles ont essayé d'intervenir auprès des autorités pour éviter que de Lubac soit sanctionné par la commission bancaire.
Sanctionné, mais pourquoi elle serait sanctionnée ?
Eh bien, en 2009, le régulateur bancaire estime que la banque n'est pas assez solvable, qu'elle n'a pas assez de liquidités.
Et donc ?
Eh bien, c'est là qu'intervient Jean-François Étienne Desrosés. Il va envoyer des notes, beaucoup de notes, sur du papier en tête de la présidence de la République, pour se faire le porte-voix du principal gérant de la banque de Lubac. On le voit notamment dans cette lettre qu'il envoie à un haut fonctionnaire et à un sénateur, et dont nous avons fait lire un extrait. Il leur demande d'intervenir en faveur de la banque.
Le président de Lubac souhaiterait que des instructions soient données à la commission bancaire pour que dorénavant la banque ne fasse plus l'objet d'attaques professionnelles et personnelles à l'encontre de certains de ses éminents dirigeants pour retrouver un climat de sérénité le plus rapidement possible.
Oui, en clair, il demande à ce qu'on arrête de chercher des poux dans la tête de la banque.
C'est ça, et il semble alors bénéficier d'une oreille attentive de l'Élysée. On le comprend en examinant une autre note, signée cette fois-ci directement par Claude Guéant, qui est à l'époque, on est en septembre 2009, le secrétaire général de l'Élysée. Voilà ce que Claude Guéant a écrit précisément à Serge Bialkiewicz, le président de la banque.
Monsieur le Président, vous aviez bien voulu m'informer des difficultés que rencontrait la banque de Lubac dans ses relations notamment avec la commission bancaire. J'ai prescrit un examen très attentif de cette affaire et j'ai demandé au préfet Jean-François Étienne Desrosés de suivre ce dossier en restant à votre écoute.
Ouais, donc le secrétaire général de l'Élysée se penche au chevet de la banque ardéchoise. Bon, maintenant qu'un secrétaire général transmette un dossier et écrive un courrier plutôt bienveillant, c'est assez classique ça, non ?
Alors ça, c'est effectivement ce que nous a répondu Claude Guéant lorsque nous lui avons posé la question. Voilà d'abord ce qu'il nous a dit lorsque nous lui avons demandé s'il se souvenait de cette affaire.
Vous savez, ça remonte à quelques années quand même, mais ça me rappelle quelque chose, oui, effectivement, oui.
Vous vous souvenez être intervenu pour aider la banque ?
Pas pour aider, pour demander que l'on regarde la situation. parce que de mémoire, ce monsieur m'avait indiqué que son établissement était l'objet de discrimination. Et j'ai demandé que l'on regarde ça de près, parce que les accusations de discrimination qu'il mettait en avant me semblaient devoir être analysées.
Ouais, donc l'Élysée prend le dossier en main. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on sait que le président de la banque, Serge Bialkiewicz, a été personnellement reçu à la présidence en 2009 par Xavier Muscat, le secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé des affaires économiques.
Et ils ont parlé de quoi ?
Selon une note écrite par Jean-François-Étienne Desrosiers, ils auraient bien discuté des relations tendues qui existaient entre la banque de Lubac et le régulateur bancaire. Alors nous avons sollicité Xavier Muscat, il est aujourd'hui directeur général délégué du Crédit Agricole, et il nous a transmis cette réponse que nous avons fait lire.
Il est exact que j'ai rencontré Serge Bialkiewicz, comme de nombreux dirigeants de banques françaises. Je vous indique que je n'ai jamais pris, ni incité à prendre par une quelconque autorité publique, de décision de faveur à l'égard de la banque de Lubac ou de M. Bialkiewicz.
Donc il y a bien eu des contacts, mais apparemment pas d'intervention des responsables de l'Élysée.
Effectivement, et d'ailleurs les demandes de Jean-François-Étienne Desrosiers vont parfois créer un malaise. Par exemple, en juillet 2009, Philippe Marini, qui était à l'époque sénateur et rapporteur général de la Commission des Finances, est sollicité par Jean-François-Étienne Desrosiers pour intervenir auprès de la Commission bancaire en faveur de la banque. Mais Philippe Marini conclut qu'il n'y a aucune raison de le faire, et il nous a expliqué pourquoi.
J'ai étudié le sujet. Je me suis documenté, les informations que j'ai recueillies m'ont conduit à la conviction qu'une intervention était tout à fait inopportune. Quand on intervient dans une affaire de cette nature, on engage son crédit. Donc, en tant que rapporteur général de la Commission des Finances, bien entendu, je ne pouvais pas me permettre d'engager mon crédit pour une cause qui me semblait douteuse.
Douteuse, dit cet ex-sénateur. Donc l'histoire s'arrête là ?
Eh bien non, parce que si l'on en croit d'autres notes rédigées par Jean-François-Étienne Desrosiers, les interventions vont se poursuivre, mais plutôt via le cabinet de la ministre de l'économie, qui est alors sous la coupe de Christine Lagarde. Ainsi, le 12 octobre 2009, Jean-François-Étienne Desrosiers adresse un courrier à un membre du conseil de surveillance de la Banque de Lubac pour le tenir au courant de son travail, et voici ce qu'il écrit dans sa note.
On peut affirmer que les interventions du cabinet de Madame Lagarde ont mis sous tension la commission bancaire, peu habituée à être rappelée à l'ordre. Le premier sous-gouverneur de la Banque de France a confirmé que des instructions d'apaisement en faveur de Delubac avaient été ordonnées, et tout particulièrement à l'encontre de Monsieur qui aujourd'hui a reçu personnellement des instructions très fermes pour être à l'écoute de Delubac.
Ouais, si on l'écoute, le cabinet de Christine Lagarde aurait donc mis la pression sur la commission bancaire. C'est en tout cas ce que lui dit Étienne Desrosiers. Et la commission, elle confirme ?
Eh bien, on ne le saura pas puisqu'elle a refusé de nous répondre.
Ouais. Et sinon, vous avez identifié d'autres interventions du conseiller Étienne Desrosiers qui pourraient poser question ?
Oui, j'en ai identifié plusieurs, dont une particulièrement surprenante. Il se renseigne auprès d'un préfet travaillant avec les services de renseignement pour obtenir des informations sur un ressortissant russe, potentiel client de la banque. Des informations dont certaines étaient confidentielles ont donc été transmises à un cadre de la banque de Lubac.
Bon, et la banque, elle, comment elle justifie d'avoir ainsi eu recours à ces personnalités publiques qui défendent finalement des intérêts privés?
Eh bien, elle reconnaît l'existence de certaines interventions, mais elle affirme n'avoir jamais rien demandé à Jean-François-Étienne Desrosiers, bien au contraire. Écoutez ce que nous a dit Joël-Alexis Bialkiewicz de la Banque de Lubac.
Jean-François-Étienne Desrosiers se permettait d'intervenir personnellement dans des sujets de manière extrêmement maladroite et je dirais totalement contre-productive. Moi, si je devais compter le nombre de fois où il a été convoqué dans le bureau de mon père pour promettre, jurer, cracher qu'il ne recommencerait plus, pour que finalement ça recommence deux semaines plus tard, dans un certain nombre de dossiers, il s'est permis d'envoyer des courriers que déjà à l'époque nous avions fortement désapprouvés.
Bon, et Jean-François-Étienne Desrosiers, lui, il en dit quoi ?
Eh bien, on a tenté de le joindre via son avocat, mais il nous a fait répondre qu'une enquête était en cours et qu'il ne pouvait donc pas nous répondre.
Ouais, donc on n'aura pas sa version. Maintenant, un autre épisode a attiré votre attention.
Oui, un épisode qui s'est déroulé après tout ce dont je viens de vous parler. En 2010-2011, après cet intense travail de lobbying, donc, Aymeric de Montesquieu et Jean-François-Étienne Desrosiers vont rejoindre le conseil de surveillance de la banque. Et ils vont être très bien payés pour ça.
C'est-à-dire ?
Alors, pour vous donner un exemple, entre 2010 et 2015, Jean-François Étienne Desrosiers va toucher plus de 500 000 euros. Et Emery de Montesquieu, qui le rejoint un an plus tard, va lui toucher plus de 300 000 euros. C'est beaucoup plus que ce qui était versé jusque-là aux autres administrateurs de la banque, et c'est même plus que ce qui se pratique dans des entreprises bien plus grandes du CAC 40.
Mais alors, qu'est-ce qui justifie de tels montants ?
Eh bien, pour Joël Alexis Bialkiewicz, Jean-François Étienne Desrosiers devait apporter des clients prestigieux à la banque. C'est du moins ce qu'il aurait promis.
Jean-François Étienne Desrosiers a fait croire qu'il pouvait lui ouvrir les portes du CAC 40. Donc Jean-François Étienne Desrosiers a demandé une rémunération que mon père lui a accordée sans plus se poser de questions. Ça peut paraître une rémunération qui est élevée pour un membre du conseil de surveillance, ça n'en est pas une pour quelqu'un qui rapporte des dossiers. Et c'est un peu le problème. Mon père en espérait beaucoup. Il espérait que Jean-François Étienne Desrosiers lui ramène des dossiers conséquents, ce qui, objectivement, n'a absolument pas été le cas.
Et du coup, ces rémunérations vont provoquer un malaise jusqu'au sein de l'équipe des gérants.
Oui, Jean-Michel Samuel de Lubac, le petit-fils du fondateur de la banque, découvre que Jean-François Étienne Desrosiers va toucher pour la seule année 2013 145 000 euros de jetons de présence, alors que les autres administrateurs ne percevront que 1 000 euros environ. Il a raconté aux enquêteurs ce qu'a alors été sa réaction. Nous avons fait lire un extrait de son audition.
Quand j'ai eu connaissance de ce montant, je suis allé voir M. Serge Bialkiewicz pour savoir à quoi correspondait cette somme. Il m'a dit que M. Étienne Desrosiers et M. de Montesquieu nous ouvraient des portes, nous mettaient en relation avec des personnalités importantes, mais je n'en sais pas plus. Moi-même et ma famille avons voté cette somme. J'en ai souffert parce que je considère que j'aurais dû intervenir publiquement pour savoir à quoi correspondaient ces sommes. Mais je n'ai pas eu le courage de m'y opposer.
Ouais, donc lui considère que cette rémunération posait question. Et l'enquête judiciaire, elle en est où aujourd'hui ?
Eh bien, elle se poursuit. Dans un résumé de leur enquête que nous avons pu consulter, les policiers écrivent que, compte tenu des éléments en leur possession, le gérant de la banque, Serge Bialkiewicz, Jean-François Étienne Desrosiers et Emery de Montesquieu pourraient être poursuivis pour trafic d'influence. Quant à Claude Guéant et Xavier Muscat, ils pourraient faire l'objet de poursuites pour complicité de trafic d'influence. Mais à ce stade, il ne s'agit que de préconisations. C'est le juge d'instruction, au final, qui décidera.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors Abdellah Khalid Rissi, on va maintenant voir que la petite banque de Lubac n'est pas citée que dans le cadre du Kazakh Gate et dans une possible affaire de trafic d'influence. Vous avez aussi trouvé trace de cette banque dans ce qu'on appelle les Dubai Papers.
Oui, alors pour mémoire, les Dubai Papers, ça renvoie à cette enquête que nous avions réalisée avec nos confrères de l'Obs et qui montrait qu'une officine dirigée par un prince belge, Henri de Crouy, avait organisé depuis Dubaï un système d'évasion fiscale pour des dizaines de contribuables et de chefs d'entreprise. Entreprise française. Le nom du groupe dirigé par ce prince belge, c'est Elin.
Et quel rapport entre Elin et notre banque ardéchoise ?
Eh bien, on retrouve la banque dans des documents internes du groupe Elin. En fait, Elin avait élaboré un projet pour ouvrir une filiale de la banque de Lubac à Dubaï. Or, on sait qu'à l'époque, Elin cherchait des banques pour accueillir les dépôts de ses clients, dont beaucoup détenaient des millions d'euros non déclarés au fisc français.
Vous voulez dire que si ça s'était fait, de Lubac aurait pu devenir la banque d'accueil de fraudeurs fiscaux à Dubaï ?
En tout cas, c'était le projet de Elin. Du coup, nous avons posé la question à l'un des gérants de Lubac, Joël Alexis Bialkiewicz. Il confirme avoir rencontré Henri de Crouy à Paris, mais il affirme avoir renoncé à travailler avec lui.
Les informations sur la nature du business qu'il envisageait de faire avec nous nous a conduit à refuser catégoriquement de faire du business avec lui. Voilà. Donc on a refusé et on lui a gentiment dit d'oublier notre numéro. Tout ce que nous avons fait avec ce de Crouy, c'est des choses qui étaient rigoureusement légales. Et ce qui n'était pas légal, on a refusé de le faire.
Ah oui, on veut qu'il oublie notre numéro, mais on fait quand même des affaires avec lui, quoi.
Oui, en 2012, la banque de Lubac va placer 20 millions d'euros à l'Emirates National Bank of Dubai. Mais ce qui étonne dans cette opération, c'est que, premièrement, de Lubac accepte d'être rémunéré à un taux moins avantageux que ce que lui proposent alors des banques françaises. Et deuxièmement, elle ne traite pas directement avec la banque à Dubaï. Tout va passer par le groupe Elin, et notamment par un avocat parisien qui s'appelle Boris Pavlovitch. Nous avons donc interrogé l'un des gérants de la banque pour comprendre quel rôle jouait cet avocat, et voilà ce qui nous a été répondu.
C'était un avocat qui travaillait en collaboration avec Maître Pardot, qui est l'un de nos avocats.
Il a eu un rôle dans cette opération, Boris Pavlovitch.
Boris Pavlovitch et Olivier Pardot n'ont pas eu de rôle direct dans cette opération.
J'ai énormément de mails de votre part transférés à Boris Pavlovitch.
Oui, j'avoue que ça ne... Oui, c'est possible. Si vous me le dites, je vous crois.
Il vous croit. Et l'avocat qui faisait la liaison avec Elin, lui, il vous a donné des précisions sur son rôle ?
Non, il m'a expliqué qu'il était tenu au secret professionnel. Il a donc refusé de me répondre.
Ouais, en tout cas, on sait, hein, on a compris que Elin, notamment via cet avocat, était donc dans la boucle de ce placement de 20 millions d'euros de la banque ardéchoise à Dubaï. Bon, maintenant, c'est pas illégal, ça, non ?
Alors, a priori, non. Mais ce qui va se passer ensuite, potentiellement, aurait pu l'être.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dans les documents internes des Dubai Papers, on découvre que le groupe Elin aurait proposé de racheter à De Lubac des créances douteuses que la banque détenait. Il y en avait pour 13 700 000 euros et Elin proposait de les racheter pour seulement 11 millions.
Ce qui peut s'entendre, hein, puisqu'une créance douteuse ou un actif pourri, hein, comme on dit d'ailleurs maintenant, on n'est jamais sûr de le récupérer.
Oui, dans cette opération, la banque aurait perdu 2 700 000 euros. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement se dire que mieux vaut perdre 2,7 millions plutôt que 13 millions si vos débiteurs ne vous remboursent jamais.
Et donc, où est le problème ?
Eh bien, le problème, c'est que dans une telle opération, les acteurs du montage peuvent très bien s'entendre pour dépouiller la banque à leur profit. Autrement dit, se répartir les 2,7 millions de différence que la banque, elle, perdrait dans l'opération.
Ouais, mais attendez, Abdelhak, c'est une pure supposition, ça.
C'est vrai, mais ce type de montage, c'était un peu la spécialité du groupe Elin. Donc, on peut raisonnablement se poser la question.
Ouais, cette question, vous la posez d'autant plus qu'il y a autre chose qui a attiré votre attention dans ce dossier.
Oui, en plus, Elin proposait, pour garantir toute cette opération, d'utiliser les 20 millions d'euros que la banque de Lubac avait placés à Dubaï.
Ouais, donc autrement dit, s'il y avait eu un problème de remboursement, de Lubac perdait également ses 20 millions d'euros.
C'est exactement ça, elle perdait sur tous les tableaux. Et c'est pour ça que le gérant de Lubac, Joël Alexis Bialkiewicz, affirme qu'il est tombé de sa chaise quand il a découvert ça.
C'est à la fin, quand on était sur le point de signer pour le rachat de créances, qu'on a vu dans les documents qui nous étaient proposés qu'on était censé nantir le dépôt qui était fait. Donc là, du coup, évidemment, on a refusé de signer. C'est illégal, c'est interdit pour de bonnes raisons, et donc on n'a pas voulu signer.
Ouais, donc si on résume, après avoir tenté d'en faire une banque de fraudeurs, le groupe Elin aurait essayé d'embarquer De Lubac dans un autre projet illégal et De Lubac s'y serait opposé.
Oui, c'est la version de Lubac, sauf que l'avocat suisse du groupe Elin, Grégoire Rey, contredit la version de la banque. Dans un mail qu'il nous a envoyé, il affirme, je cite, que l'opération a été envisagée à l'initiative de la banque.
Oui, effectivement, ça n'est pas tout à fait la même version, donc ce sera version contre version. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à partir d'aujourd'hui, Abdelhak ?
Alors, il existe aujourd'hui plusieurs enquêtes distinctes dans lesquelles le nom de la banque apparaît. L'une sur le Kazakhgate, donc, une autre sur un éventuel trafic d'influence, et une troisième qui a été ouverte par le parquet national financier après la révélation des Dubai Papers. La justice dispose donc de tous les éléments du puzzle. Maintenant, va-t-elle tenter de les rassembler ? Ça, personne ne peut le dire.
Et ce sera le mot de la fin, en tout cas pour aujourd'hui. Merci Abdelhak El Idrissi. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser des commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Les grandes écoles forment certes les élites françaises, mais nous allons voir dans quelques instants que derrière le vernis prospèrent encore des pratiques à donner la nausée. Keep Moving, n'arrête pas de bouger, c'est de la pure disco, c'est un clin d'œil aux années 80 du duo britannique Jungle, et c'est extrait de leur prochain album dont la sortie est prévue pour août prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Iban Raïs, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Vous publiez La fabrique des élites déraille et vous y révélez l'envers du décor des prestigieuses écoles de commerce que sont HEC, l'ESSEC ou encore l'EDEC. On y tolérait jusqu'à il y a peu, et apparemment encore en partie aujourd'hui, des pratiques sexistes et humiliantes. On va voir ça dans le détail. Alors, tout commence par ce qu'on appelle les week-ends d'intégration qui ont lieu quelques semaines après la rentrée. C'est une tradition et vous racontez qu'à HEC, par exemple, dans les années 2010, certaines écoles privatisaient un train pour se rendre dans le sud, et ce train qu'on appelait le train disco, bah, il s'y passait des drôles de choses. Racontez-nous.
Bah, c'est un peu le train fantôme, c'est-à-dire que ça marche par wagon. Les promotions donc, qui viennent d'arriver sur le campus vont être mises à rude épreuve, puisqu'elles commencent par le wagon qui est tout derrière, et à chaque passage de wagon, si vous voulez, elles vont devoir boire un shot.
Shot d'alcool.
Shot d'alcool, entre autres. Le wagon du milieu, c'est une piste de danse. Il y a du vomi, il y a de l'alcool, il y a parfois de l'urine, me disent quelques sources. La SNCF savait très bien que ces trains-là étaient voués à ces pratiques-là, mais en fait, fermez les yeux, c'était des vieux trains qui roulaient bah, presque plus, mais en attendant, bah, ils ont été bien exploités par ces promotions-là pour faire un petit peu n'importe quoi.
Alors, il y a un endroit où il se passe des choses extrêmement révélatrices de ce que vous êtes en train de nous raconter. C'est cette fameuse course croisière qui est un peu l'équivalent de ces grandes courses qu'on connaît à Oxford, vous citez Yale aussi, en France aussi, donc c'est la plus grande du monde apparemment, hein, pour ce qui concerne l'EDEC.
La plus grande régate étudiante du monde, oui.
Ouais, c'est ça. Et alors là, vous racontez des trucs dingues, parce que pour participer au week-end de préparation de cette croisière, on met des bisous à genoux par exemple, qui doivent revêtir un t-shirt. Alors là, je vous cite, il y a marqué sur les t-shirts « cartouche à foutre ». Citerne de chiasse, ça c'est pour les hommes, et pour les filles c'est lasagne de règles, pardon hein, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est la vérité, et torrent de mouille.
Ouais. Ça, c'est, dans mon souvenir, c'est quand ils vont au week-end d'intégration, où on les arrête sur des aires d'autoroute, où ils ont des pompes à faire, parfois sous la pluie, où on les maltraite, on les insulte, on leur jette de la nourriture. C'est pour casser, en fait, vraiment la personnalité de ces étudiants qui arrivent et qui vont rentrer dans un moule.
C'est le principe de tout rite initiatique, au fond, c'est-à-dire faire disparaître votre personnalité pour en faire renaître une autre. Sauf que cette autre-là, elle est épouvantable, quoi.
Exactement. Et ça mène à des choses comme... mon chapitre sur Manuel, qui est un jeune étudiant, un garçon brillant, qui a été littéralement brisé par les abus de la course croisière EDEC, puisque il est tombé d'une fenêtre d'à peu près 10 mètres, après avoir été forcé à boire une bouteille dans laquelle on trouvait du rhum, de la tequila, du gin, de la vodka et de la bière. Voilà, il avait une heure et demie pour boire cette bouteille, comme initiation, pour entrer dans cette course croisière EDEC, qui est une association très puissante. Il l'a fait, et ensuite, il n'a pas été surveillé par les membres de l'assaut. Il est tombé, c'était il y a à peu près 8 ans, et on n'est toujours pas sorti de cette affaire-là, puisqu'il n'a pas été diplômé, et ses frais de scolarité n'ont pas été remboursés.
C'était dans un appartement à Lille, où il y avait tout un rite aussi, on passait par la cave, il y a des bougies, ensuite on arrive dans la pièce où on vous fait boire.
Vous êtes accueillis par des anciens qui ont les bras croisés, qui vous regardent pas, et qui sont très énervés, qui ont le crâne rasé, enfin c'est tout très symbolique.
Et puis dans ce même appartement, on force une jeune fille à assister à un film porno.
Bien sûr. De toute façon, pendant leurs années campus, les jeunes étudiantes vont devoir normaliser la sexualisation permanente de la part des garçons. C'est-à-dire que elles vont devoir, au quotidien, faire attention sur le campus, faire attention à l'image qu'elles donnent, et surtout normaliser les remarques sexistes et les agressions qu'elles peuvent subir.
Alors, on parlait des week-ends d'intégration, mais ça se passe aussi tout au long de l'année, notamment à travers les soirées étudiantes, ça vous en parlez aussi, hein, HEC, l'EDEC. Tous les jeudis soirs, vous dites, c'est open bar. Alors, il n'y a plus d'alcool fort, mais on a remplacé ça par la bière.
Oui, et puis, si vous voulez, donc il y a ce contournement de la loi, puisque les open bars sont illégaux depuis une dizaine d'années, sauf qu'ils appellent ça SMAT, soirée mensuelle à ticket. Donc, vous payez 2€, et puis finalement, vous pouvez boire ce que vous voulez. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les préchauffes. C'est-à-dire que avant ces soirées-là, ils sont tous dans leur colocation ou dans leur chambre d'étudiants. Et là, du coup, l'alcool fort y va, et c'est binge drinking avant de boire de la bière jusqu'à 6h du matin.
Et puis vous racontez ces soirées où les filles ont le droit de venir jusqu'à 23h et de boire gratuitement. Et ensuite, les garçons arrivent.
Ce qui est systémique là-dedans, c'est que cette soirée, elle existe dans les trois écoles. Elle a un nom différent, c'est Ladies First, donc les filles d'abord à l'EDEC. C'est au bonheur des putes à l'ESSEC, désolé pour nos auditeurs. Et c'est au bonheur des zoulettes à HEC. Si vous n'êtes pas une fille, vous pouvez pas venir jusqu'à 23h. Les filles viennent, on leur donne alcool gratuit, illimité. Et derrière, les garçons, les organisateurs s'appellent les enfoirés, donc les enfoirés débarquent. Mmh. Et là, c'est la viande saoule, hein, mes sources me racontent ça, la viande est saoule, donc agression sexuelle, blackout, c'est la définition même de la culture du viol.
Et puis il y a aussi les associations étudiantes dans lesquelles il se passe aussi des choses. Alors là, il faut peut-être raconter ce que sont les BOD et les no-BOD.
Ah oui, ça c'est encore très intéressant. Les BOD, si vous voulez, c'est les cool. C'est ceux qui portent les bonnes affaires, qui ont les bons réseaux, qui sont dans les bonnes associations. Les associations cool dans ces écoles, elles se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Les no-BOD, c'est tous ceux qui vont remettre en question le sexisme, l'homophobie, le racisme, les abus pendant les soirées. Mais ces no-BOD, bah ensuite, ils seront pas cooptés pour entrer dans les fonds d'investissement, dans les grandes banques auxquelles sont destinés ces étudiants. Donc c'est un statut social qu'on acquiert très vite dans sa scolarité et c'est une étiquette qu'on traîne pendant toutes ces années campus.
Alors ce que vous racontez donc dans votre livre, c'est que cette culture, elle se transmet par les week-ends d'intégration, on vient le voir, par les soirées, etc., par les associations, mais il y a aussi un magazine.
Ouais, là encore, systémique comme les soirées que pour les filles. L'impertinent à l'ESSEC, alors c'est un site internet à HEC, sortie voilant.
EDEC.
Et à l'EDEC, c'est le EDH, donc ouais, jeu de mots avec mot de tête. C'est le pire. C'est le pire parce qu'il existe depuis, il existait depuis 40 ans. Il a récemment été mis de côté.
700 exemplaires
distribués au vu et au su de tous, hein, puisque j'ai même un directeur qui demandait son exemplaire. Donc il savait très bien ce qu'il y avait dans le magazine.
Alors qu'est-ce qu'il y a
dedans? Eh ben là, il y a la pute du mois. C'est-à-dire que chaque mois, des rédacteurs anonymes, puisqu'ils n'ont pas le courage d'assumer leurs écrits, élisent une pute du mois, en font un montage photo sexuel, toujours, et balance des rumeurs avec les noms des garçons ou des filles avec qui la pute du mois est censée avoir couché. C'est des réputations qui traînent ensuite pendant des dizaines d'années. J'ai une source dans ma première enquête qui me raconte qu'à un mariage, quelques années après sa diplomation, des gens qui étaient même pas à l'EDEC lui disaient « Mais c'était toi la pute du mois de tel mois, de telle année ?» Donc c'est quelque chose qui, là encore, on marque au fer rouge les étudiants pour qu'elles cessent d'exister individuellement, simplement.
Et ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est la faiblesse de la réaction quand il y a une réaction des directions de ces établissements.
C'est en fait assez logique d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que ces écoles-là, c'est 15 000 euros l'année à peu près. C'est-à-dire qu'avant d'être des étudiants, ce sont d'abord des clients. Les directions de ces trois écoles sont obsédées par les classements. Vraiment, on le sent dans des mails de la direction que j'ai pu consulter. Et donc, il vaut mieux mettre sous le tapis, en fait. Parce que adresser ces problèmes-là, ça serait accepter qu'ils existent. Donc pourquoi le faire et pourquoi ne pas mettre tout ça de côté jusqu'à ce que ça sorte? Sauf que moi, je suis là un petit peu pour soulever le tapis. C'est mon travail.
Mais aujourd'hui, parce que ces dernières années, quand même, il y a une prise de conscience qui s'est opérée. Il y a eu le phénomène MeToo. Enfin, il s'est passé des choses. Est-ce que ce que vous racontez en 2010, en 2014, en 2017, ça a cours encore aujourd'hui?
Alors, les directions agissent parce que les étudiantes les mettent au pied du mur et parce que ce sont des sujets qui sont tendance. Je suis désolé de le dire, mais le femme-washing, le pink-washing aussi, quand on parle d'homophobie, ce sont des sujets tendance. Donc, on va mettre une responsable des violences sexuelles dans telle école. On va marteler en communication sur un colloque obligatoire de sensibilisation aux violences sexuelles. Mais derrière, j'ai des étudiantes, depuis 2 ans, je parle à des dizaines, des centaines d'étudiantes, qui sont démunies et perdues. Et quand elles subissent une agression sexuelle ou un viol, elles ne savent aujourd'hui encore, à l'heure où on se parle, Jacques, elles ne savent pas vers qui se tourner et comment elles vont pouvoir obtenir réparation.
Bien, merci Ibn Raïs. Alors je rappelle que votre livre s'intitule « La fabrique des élites des rails ». Et je précise que votre livre est édité chez Robert Laffont. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer. Elle était réalisée par Christophe Imbert. Jean-Baptiste Libère a choisi la musique et à la technique. Il y avait Alix Barrois et Pierre Faucillon. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.